Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver en direct et jusqu'à 16h pour écouter vos expériences de vie. À mes côtés, ma camarade Ombline, bonjour ma chère.
Bonjour Olivier,
le week-end a-t-il été bon ?
Excellent, merci.
Ici, comme vous le savez, on parle de vous, de vos trajectoires de vie, car votre vécu nous intéresse. Nous sommes tous considérés comme des donneurs potentiels d'organes, à moins de s'y être opposés de notre vivant. En 2017, le cap des 6000 greffes d'organes ont été dépassés. Une avancée extraordinaire, tant l'on sait que le don d'organes peut faire des miracles. Cette même année, les 1796 donneurs post-mortem ont permis de sauver des milliers de vies, sans compter ceux qui, de leur vivant, l'ont fait. Mais le don d'organes est encore un sujet tabou et délicat, parce qu'il concerne la mort, le corps, ses proches, parce qu'il va de pair avec la maladie et parce qu'il est vrai que des trafics existent encore. Qu'est-ce que de vivre alors avec l'organe d'un autre après un décès ? Quel est le parcours pour un don d'organes ? Le don d'organes est-il tabou ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Et chaque jour, on a le plaisir de vous entendre au standard d'Europe 1, le 39 21 50 centimes la minute, pour nous écrire Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sandrine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Donc j'ai 41 ans et je vous appelle de Saulieu, de mon lieu de travail. Et d'ailleurs, avant, je voudrais remercier ma direction qui a bien voulu m'accorder ces quelques minutes avec vous.
Et nous la remercions aussi, Sandrine.
Merci.
Il y a 5 ans, vous avez vécu une épreuve terrible. Votre garçon de 8 ans a été victime d'un grave accident. Il a passé une semaine à l'hôpital avant que l'on vous annonce que la médecine ne pouvait plus rien faire pour lui. On vous a alors parlé de don d'organes. On vous en a parlé tout de suite. Comment, en fait, vous en a-t-on parlé ?
En fait, on nous en a parlé au moment où les médecins nous ont réunis pour nous annoncer que pour Logan, la médecine avait ses limites.
Oui.
Donc, ils ont commencé à nous annoncer qu'il y avait deux solutions possibles pour que ça se termine. Donc, c'était soit que les machines, ils débranchent les machines et à ce moment-là, Logan serait parti tout seul. Ou alors, la deuxième solution, c'était de continuer les traitements, arrêter les antibiotiques petit à petit et qu'il y avait la possibilité de faire le don d'organes.
Est-ce que vous aviez réfléchi avant ce drame à cette question du don d'organes ? Est-ce que vous aviez un avis sur la question ?
Oui, nous, en tant que parents adultes, on en parlait, on était favorables. Hein. D'ailleurs, on voulait faire un don du sang aussi, on est pour le don du sang aussi.
Oui.
Mais évidemment, on n'a jamais pensé que, on n'a jamais envisagé ça pour nos enfants. C'était, voilà, ça paraît impensable.
Mmh. Quand on vous a proposé cela, vous avez répondu par l'affirmative. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ensuite ?
Le fait que Logan ait eu besoin d'une transfusion dans la semaine qu'il était hospitalisé, il a besoin de sang.
Oui.
Donc voilà. Et puis après, on a beaucoup parlé avec mon mari, on a beaucoup réfléchi et oui, on a accepté parce qu'on s'est dit que voilà, on a tout de suite senti que ça pouvait nous aider pour la suite et aider d'autres aussi évidemment.
Oui. On va voir justement en fait comment le don d'organes, en tout cas dans quel état d'esprit met le don d'organes les parents. Quels organes ont été prélevés chez Logan ? Parfois, les proches ont plus de réticence au prélèvement de certains organes qui ont une certaine symbolique. Est-ce que c'était votre cas, vous aussi ?
Oui, dans un premier temps, ça a été le cas. J'avais dit, on ne touche pas à son cœur. Voilà, c'est
ouais.
Vraiment, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, on a réfléchi et on s'est dit, si on fait ce geste-là, autant aller jusqu'au bout. Donc, oui, au final, son cœur a été prélevé, ses deux reins. Donc, ce qui a fait que Logan a pu sauver 3 enfants.
Oui, ce qui est extraordinaire et voilà, vécu par vous comme quelque chose qui a atténué un peu la douleur, même si je pense que la douleur était très vive. Vous parlez d'une image qui est restée gravée en vous, celle des portes de l'ascenseur qui se referment sur votre petit garçon lorsqu'on l'a emmené pour la dernière fois. Et puis là, à partir de ce moment-là, plus personne. Vous n'avez eu aucun accompagnement psychologique ensuite, aucune explication ?
En fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que, ben, évidemment, toute l'équipe médicale s'est concentrée sur Logan, parce que après, il y a toute une démarche. C'est très compliqué, hein. Ils sont dans l'urgence, évidemment.
Oui.
Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à nous en tant que parents. Donc, c'est vrai que ces dernières images, quand on voit toute l'équipe médicale partir avec Logan et que nous, on reste là dans le couloir tout seul, on se sent complètement anéanti, perdu. C'est très, très compliqué.
Oui, c'est...
Et on a la possibilité de rester en contact avec le centre de prélèvement du don d'organes. Évidemment, on peut avoir des nouvelles ou téléphoner. Mais à l'instant T, personne. Vraiment, on est reparti. On est resté toute la semaine au chevet de Logan 24 heures sur 24. On est rentré à l'hôpital le lundi. On est reparti le dimanche. Donc, sachant que le lundi, on est arrivé avec lui et que le dimanche, on est reparti sans lui. Et pour des parents, je peux vous dire que c'est la pire épreuve qui puisse arriver. Mm-hmm. Et cette image d'ascenseur avec Logan qui s'en va et vous savez que vous ne le reverrez plus jamais, c'est terrible. Et il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment parler du don d'organes. Il y a beaucoup de choses encore qu'on ne parle pas, qui sont tabous et qui sont tellement importantes.
Voilà, et qui pourrait aussi encourager d'autres parents qui se retrouveront malheureusement dans votre cas à trancher sur cette question du don d'organes. Sandrine, vous restez avec nous en ligne. Nous allons voir comment vous avez fait de votre histoire un combat, celui de faire connaître le don d'organes, car comme vous l'avez souligné, il peut sauver des vies.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, nous parlons du don d'organes. Une transplantation vous a sauvé la vie. C'est le cas d'un de vos proches. Un membre de votre famille a été donneur. On vous attend au 3921. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix, pour venir nous raconter votre vie depuis qu'on vous a greffé un organe, depuis que vous êtes venu en aide à un membre de votre famille ou à un inconnu grâce à un don de rein ou de moelle osseuse. Nous vous lisons aussi sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Sandrine qui nous expliquait qu'après la perte de leur jeune fils Logan, qui n'avait que 8 ans, Sandrine avait donné avec le papa de Logan leur accord pour ce don d'organes et que aucun accompagnement n'avait été prévu pour ses parents et que voilà, la porte s'était refermée sur cet enfant et puis après plus aucun entourage à part la famille, je suppose, hein, Sandrine.
Oui, tout à fait. Oui, c'est la famille et les amis, beaucoup. Oui. Mmh.
Alors après cet événement, la création d'une association vous est apparue comme évidente. Elle s'appelle Un but pour Logan. Justement, quel était votre but à vous en la créant ?
Eh ben, en fait, on s'est dit que par là où on est passé, forcément, il y a d'autres parents qui étaient passés par là où on est passé et d'autres parents qui allaient certainement rencontrer aussi les mêmes drames. Et que moi, il était hors de question que je reste sans rien faire. Donc Logan est parti le 6 octobre et l'association a vu le jour en janvier 2014. Et c'est pour faire comprendre aux parents que voilà, au-delà de cette tragédie, il y a quand même de l'espoir et que pour le deuil, c'est vraiment important. Nous, ça a été vraiment une étape très très importante. Déjà de se dire que 3 enfants ont pu être sauvés grâce à Logan, c'est vraiment quelque chose qu'on se dit, bah, notre petit garçon, c'est un héros. Et puis en plus de ça, ça laisse l'espoir et la vie surtout. Et nous, c'était hors de question qu'on dise non à la vie, quoi. Mmh. Et on a voulu continuer, on s'est battu et on s'est dit que c'était un sujet qu'il fallait qu'on parle encore plus. Oui, et c'est vrai que le don d'organes, on en parle en général, mais on n'en parle pas chez les enfants. Mmh. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants en attente de greffe et il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment très important.
Lorsque vous dites que cela vous a aidé dans votre deuil, j'aimerais que nous allions un peu plus loin. Est-ce que à travers ces 3 enfants que Logan a sauvés en donnant ses organes, est-ce que c'est un peu de lui qui vit chez ses enfants pour vous ? Est-ce que c'est cette idée-là qui vous accompagne ?
Oui, complètement. Je me dis que tout ce que Logan ne peut plus faire, eh ben, au moins ses 3 enfants peuvent le faire à sa place. Et ça aide énormément. Oui, tout à fait.
Pourquoi, à votre avis, le don d'organes alors reste-t-il encore aussi tabou aujourd'hui ?
Parce que c'est un rapport à la mort, je pense.
Ouais.
C'est un rapport à la mort et pourtant en parler, c'est pas une fatalité. Et moi, je voudrais dire que avant ça, on était des parents, on était une famille comme tout le monde. C'est-à-dire que ce jour-là, ce jour du drame, on est des parents qui sont partis au travail, nos enfants étaient à l'école et sans se douter une seule seconde que le soir, nos vies allaient basculer dans le cauchemar.
Ouais.
Et que voilà, il faut vraiment penser que ça n'arrive pas qu'aux autres et que la question du don d'organes, il faut vraiment y avoir dans un coin de sa tête et y réfléchir. C'est vraiment vraiment important.
Mmh. Grâce à votre association, vous faites des ateliers avec des enfants pour les sensibiliser au don d'organes. Alors, je voulais savoir comment ils réagissent instinctivement face à cette problématique et si un enfant qui aujourd'hui évoque sa volonté, s'il lui arrive quelque chose, de donner ses organes, est-ce qu'il est entendu ou vraiment ça passe par les parents aujourd'hui ?
Ça passe par les parents. ça passe forcément par les parents. Tant que les enfants ne sont pas majeurs, oui. Ça passe par les parents. Quoiqu'à 13 ans, maintenant, ils peuvent se positionner, mais ça reste jusqu'à leur majorité, ça reste les parents décideurs.
Mmh. Mais comment ils réagissent alors, lorsque vous faites ces ateliers ?
Eh bien, en fait, très très bien. Mieux que les adultes en même temps. C'est quelque chose qui est à peine croyable, mais pour eux, c'est d'un naturel. Voilà, c'est évident. C'est un sujet qu'on peut parler avec eux, mais en toute simplicité, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Par contre, la seule question qui revient assez souvent, c'est « Mais pourquoi Logan n'a pas été sauvé ?» Voilà, ouais. c'est ce qu'il faut leur expliquer. Mais sinon, à côté de ça, ils sont très... Voilà, ils comprennent et pour eux c'est naturel. Voilà.
Et nous nous quitterons sur cette note d'espoir un peu très porteuse de ces enfants qui sont extrêmement sensibilisés aux ateliers que vous organisez à travers votre association Un but pour Logan. Sandrine, merci de nous avoir raconté votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. C'est le nom de votre association. On peut évidemment vous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Un but pour Logan. Dans quelques instants, nous serons avec Benoît Averland. Il est médecin à l'Agence de la biomédecine.
Et le message d'Annick, le témoignage d'Annick au 39-21, elle a 72 ans. Je sais que je ne peux plus donner grand-chose niveau organe, mais je me pose la question pour les parents d'enfants végétatifs depuis 10 ans. Pourquoi ne donnent-ils pas les organes de leurs enfants ?
Europe 1.
Vous vivez grâce à un don d'organes, vous envisagez de pouvoir aider au-delà de la mort. Vous nous racontez au 39-21, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Commencez de vivre avec un organe qui n'est pas le sien. Une transplantation vous a sauvé la vie. Les organes d'un de vos proches ont permis à d'autres personnes de survivre. Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21.
Et nous accueillons maintenant Benoît Averland, médecin à l'Agence de biomédecine. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour. Alors j'aimerais avant tout vous poser une question qui me semble essentielle pour le sujet du jour. Est-ce que tout le monde peut donner ses organes et que dit la loi à propos de ce don d'organes ?
Alors la loi nous renvoie à un principe de solidarité. Elle nous dit que nous sommes tous donneurs, ça a été déjà dit, et nous sommes tous donneurs à une seule condition, c'est de ne pas avoir de notre vivant dit qu'on ne voulait pas donner nos organes. Donc en fait, on nous laisse le choix, mais de principe, nous sommes avant tous donneurs. Il n'y a donc pas de registre pour s'inscrire, pour dire oui, je veux qu'on me prélève. Oui. Il faut juste effectivement en discuter autour de soi.
Les donneurs âgés de plus de 65 ans représentaient près de 40% des donneurs en 2018. Il n'y a pas d'âge limite donc pour donner ses organes ?
Alors, il n'y a pas d'âge en fonction d'un âge d'état civil, mais en fait, ce qui importe, c'est l'état de l'organe tel qu'il va être explanté chez son donneur et réutilisé en transplantation humaine. Donc, c'est essentiellement la cause du décès qui font beaucoup, de même que les habitudes de vie, l'état général du donneur qui permettent, et on prélève effectivement de plus en plus des gens âgés, avancés dans l'âge de la vie, oui. Simplement parce que nous vieillissons tous de mieux en mieux, dans une bien meilleure forme. Ces 30 dernières années ont été à ce titre-là assez exceptionnelles, donc on prélève même parfois au-delà de 90 ans.
L'Agence de la biomédecine le rappelle régulièrement, en France, plus de 63 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Pourquoi alors a-t-on cette impression que l'on en parle si peu ?
Alors, c'est une impression parce que nous faisons, nous, Agence de la biomédecine, et c'est la société qui nous le demande, beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer justement d'en parler. 63 000 personnes, ça semble énorme quand on y pense en chiffres, en valeur absolue, mais c'est quand même que 0,1% de la population d'un pays de 66 millions d'habitants.
Oui.
C'est pas si énorme que ça. En revanche, ça fonctionne. Ça veut dire aussi qu'il y a 63 000 personnes qui vivent facilement avec un organe. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un traitement qui fait partie de l'ensemble de l'éventail des traitements possibles. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce que, ben, vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction de votre propos, c'est une transgression, c'est manipuler la mort, c'est réfléchir et discuter de notre propre mort.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et pour les soignants, ben, le décès, la mort d'un patient, c'est d'abord toujours un déchirement et forcément quelque part une petite part d'échec parce que on le disait, la médecine a des limites. Nous, on n'aime pas trop les limites, les soignants. On aimerait bien justement que chaque personne puisse trouver le soin adapté. Mais ça n'est hélas pas toujours possible.
Pourquoi certaines personnes refusent de donner leur organe? C'est au nom de certaines croyances, je suppose, d'idées reçues?
Alors, je dirais que c'est plutôt au nom d'une forme de méconnaissance. C'est plus l'ignorance, à mon avis, qui conduit au refus, puisque quand les gens se sont clairement exprimés de leur vivant, les coordinations hospitalières qui s'occupent dans les hôpitaux d'aborder, comme la maman qui témoignait tout à l'heure a été vue par une coordination hospitalière, ces gens disent qu'ils n'ont pas de difficultés lorsque les gens ont clairement exprimé leur position. Donc c'est plus de la méconnaissance, le fait de ne pas savoir ce que l'autre aurait voulu. Témoigner lorsqu'on est dans une grande période de détresse, c'est extrêmement difficile et ça nécessite effectivement une grosse réflexion. Donc c'est probablement plus de la méconnaissance. Il n'y a pas de limitation religieuse puisque toutes les religions monothéistes autorisent le prélèvement pour aider les autres. Donc il faut continuer à en parler, à débattre, à donner son avis et à se positionner.
Quels sont vos objectifs face aux tabous liés au don d'organes aujourd'hui ?
L'information, la discussion et l'information. Je pense que ce que je fais aujourd'hui avec vous, ce que vous faites dans votre émission, c'est un sujet de société, c'est un droit qui nous est donné. On a quand même cette chance exceptionnelle dans un pays de liberté de dire « je peux vouloir ou ne pas vouloir » d'ailleurs, puisque c'est vraiment parfaitement autorisé, de donner mes organes après ma mort. Et je trouve que c'est important d'amener cette réflexion dans une population. Nous avons une population qui est de plus en plus informée et qui d'ailleurs a pris pour la plupart une décision. La chose la plus difficile qu'il faut rappeler, c'est quand on a pris sa décision, il faut le dire aux autres.
Est-ce que, on écoutait Sandrine dans la première partie de cette émission, est-ce que ça n'est finalement pas le don d'organes d'enfants qui est le plus tabou, docteur ?
Alors, je ne sais pas si c'est le plus tabou, c'est en tout cas pas le plus difficile, puisque après ce témoignage réellement exceptionnel que nous avons eu en tout début d'émission, on se rend compte que des parents ont décidé d'autoriser le prélèvement des organes de leur enfant. Perdre son enfant, c'est l'horreur absolue. Oui. Et on imagine bien que ça a dû être un déchirement, une décision extrêmement difficile, mais elle le disait très bien, cette dame, que elle s'est appuyée sur cette procédure et sur cette décision pour justement aider à construire un deuil et de se dire que peut-être, alors c'est une hypothèse, mais que cette mort aura servi à trois petits enfants de vivre une vie normale, même si c'est extrêmement difficile. Donc c'est pas tellement le don des organes d'enfants, c'est le fait simplement d'envisager notre propre mort. Et on voit bien quand on parle à des enfants que les enfants, eux, n'ont pas de problème avec ça. Oui, si je suis mort, qu'on prenne mes organes, ça ne leur pose à eux pas de problème. C'est beaucoup plus les adultes qui doivent y réfléchir et se positionner.
Benoît Verlan, je rappelle que vous êtes médecin à l'Agence de la biomédecine. Vous restez en ligne avec nous pour nous donner encore vos éclairages. Dans quelques instants, nous allons accueillir Claire. Elle a été greffée du cœur il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on va voir qu'elle a une vie complètement normale et qu'elle veut sensibiliser au don d'organes.
Et le témoignage d'Anne-Marie, 53 ans, au 39-21, j'ai perdu ma fille il y a un an et demi. Elle avait 19 ans, elle est décédée d'une hémorragie cérébrale. Nous avons décidé de donner ses organes sans même savoir si elle le souhaitait. Foie, rein, cœur, poumon, pancréas. Elle était étudiante en médecine. Un mois après, nous avons retrouvé sa carte de donneur d'organes, ce qui nous a soulagés.
Europe 1.
Sur le principe, nous sommes pour, mais pourquoi avons-nous peur du don d'organes? C'est votre histoire, on vous écoute au 39-21. Nous parlons du don d'organes cet après-midi. Vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Claire. Bonjour Claire, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Claire?
Alors, moi j'ai 72 ans et je vous appelle de la région parisienne.
D'accord. Tout a commencé par une toux pour vous, Claire. Voilà. Une toux qui a commencé en avril 1997. En septembre, on ne vous laisse plus le choix. Vous devez vous rendre immédiatement aux urgences pour une insuffisance cardiaque globale. On vous a tout de suite parlé d'une greffe probable et possible.
Oui, tout à fait, oui.
Après de nombreux examens, donc vous finissez par perdre connaissance. Et ensuite, tout est allé très vite. Vous parlez d'une véritable chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Racontez-moi comment ça s'est passé.
Eh bien, c'est-à-dire que c'était au moment des fêtes de fin d'année. Donc, j'avais demandé à rentrer chez moi. Et puis, de quelques jours après, mon frère est venu me rencontrer à l'appartement et il m'a trouvé complètement inanimée. Il a appelé le médecin traitant qui lui a conseillé d'appeler le SAMU. Donc le SAMU s'est déplacé, ils ont appelé les motards, les pompiers. Enfin moi je vous raconte ce qu'on m'a dit.
Hein, oui, parce que ce qu'on vous a raconté.
Voilà, complètement inconsciente. Et donc ils m'ont transportée assez rapidement à Henri-Mondor.
Oui.
Et j'ai été prise en charge et transplantée dans la nuit.
D'accord. Une aventure incroyable, même si vous n'étiez pas consciente. J'ai envie de vous... Oui. Vous êtes bien évidemment reconnaissante, je suppose, de la personne qui a fait don de ce cœur. Mais
tout à fait,
se oui. réveiller avec le cœur d'un autre qui bat dans sa poitrine, qu'est-ce que ça fait, Claire ?
Ben, écoutez, sincèrement, pour être très franche, je ne m'en suis absolument pas rendu compte parce que, comme 15 jours après l'opération, il avait fallu me mettre un pacemaker
oui.
et on me l'a mis du côté droit. Donc, j'avais mal de ce côté droit. Et pas du côté du tout de la greffe, le cœur, j'ai jamais eu mal.
Oui.
Donc, on ne peut pas dire que j'ai vraiment réalisé ce qui m'était arrivé, parce que tout avait été tellement vite. Et j'étais focalisée sur cette douleur du côté droit. Mmh. En fait.
Et puis, tout s'est très bien passé, hein, parce que vous avez repris le travail 9 mois après votre greffe.
Oui.
Vous avez depuis aussi beaucoup voyagé.
Voilà.
Votre quotidien n'a pas été si bouleversé que ça, on dirait.
Pas tellement, non. Et puis après, donc ça fait 21 ans de greffe. Hein.
Oui.
Donc après le moment où j'étais à la retraite, je me suis un peu plus investie dans les associations, justement pour la promotion du don d'organes.
Alors on va en parler, bien évidemment, mais moi je voudrais savoir si deux choses dans votre histoire qui m'intéressent. Est-ce que vous savez qui vous a donné son cœur ? Et est-ce que parfois, il vous arrive de penser à ce cœur, même si, voilà, c'est comme si c'est le vôtre, hein, de toute façon, maintenant. Mais voilà, est-ce qu'on sait qui est le donneur et est-ce qu'on y pense parfois? Et surtout, j'ai envie de dire, pour le cœur, même si d'autres organes sont absolument vitaux, mais le cœur, c'est quelque chose de particulier.
Eh bien, oui, c'est certain qu'on pense au donneur, hein, pas tous les jours. Au bout de 21 ans, je ne peux pas vous affirmer que j'y pense tous les jours, mais... Suivant certains événements, au moment de l'anniversaire de la greffe, exact. On y pense, c'est certain. Mais le don d'organes est anonyme, gratuit.
D'accord.
Donc nous n'avons jamais d'informations sur le donneur. On peut juste le remercier tous les jours. Et puis si on est croyant, lorsqu'on est dans des églises ou autres, on y pense... Et puis, il va y avoir la journée du don d'organes, là, le 20 juin.
Oui.
Donc, c'est certain qu'on va y penser tous. On y pensera à ce moment-là.
Alors, aujourd'hui, Claire, vous êtes investie dans le domaine associatif autour du don d'organes. C'est votre façon à vous de redonner au quotidien. À votre avis, dans quel domaine doit-on progresser ?
Eh bien, l'information, bien sûr. Malgré toutes les campagnes d'information de l'Agence de biomédecine, malgré la tenue des stands par toutes les associations régionales et autres, vous avez encore de moins en moins, hein, c'est certain, mais des personnes qui sont mal informées et qui posent encore des questions.
Mmh. Merci beaucoup Claire, en tout cas pour votre témoignage et votre appel cet après-midi au 3921. On peut vous retrouver au sein de l'association FGCP, France Greffe Cœur ou Poumon. Merci mille fois. Dans quelques instants, nous allons accueillir Cassandre. Elle a donné son rein à son compagnon.
Europe 1. L'histoire de Claire, c'est aussi la vôtre. Vous vivez grâce à un don d'organes. L'un de vos proches a été donneur. Par quoi êtes-vous passé ? Vous nous racontez au 3921. Penser au don d'organes implique généralement d'envisager la mort bien avant la fin de sa vie. On en a beaucoup parlé depuis 15 heures. Est-ce un sujet tabou selon vous ? Vous avez bénéficié d'une greffe d'organes. Vous témoignez au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Cassandra sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Cassandra.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 27 ans et je vous appelle de Trappes dans les Yvelines.
D'accord. Alors Cassandra, vous, vous êtes avec votre compagnon depuis 3 ans. Cela
oui.
faisait déjà plusieurs années qu'il était en insuffisance rénale. À partir de quel moment l'idée de devoir faire une greffe s'est imposée à lui ?
En fait, c'était à nos toutes premières vacances où je me suis rendu compte que il y avait le problème initial, on va dire, hein, et la dialyse qui provoquait d'autres problèmes à côté. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était quand même assez, assez compliqué dans notre vie de couple. Et puis, on avait très peu de soirées pour nous. On ne pouvait pas planifier de vacances, etc. Et c'est là où je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose. Je peux peut-être l'aider à passer ça.
Justement, vous dites que sa maladie bouffait aussi votre vie à vous et votre vie de couple. Qu'entendez-vous par là ? C'est sociétalement parlant, en fait, enfin sociablement parlant, ne pas pouvoir aller à des rendez-vous amicaux, ne pas aller voir la famille,
oui,
bah
voilà,
cinéma, dîner.
Oui, voilà, il y a ça déjà qui parce que lui en fait, il y allait le lundi, mercredi, vendredi.
Oui.
Donc déjà les soirées du vendredi, c'était fichu hein. Les week-ends, pareil, c'était fichu, on pouvait pas partir, il y allait la nuit en fait, il partait.
Alors,
le soir à...
Pour tous ceux qui nous écoutent, pardonnez-moi, mais dialyser en fait, ça consiste à quoi exactement, parce que tout le monde n'est pas au courant, je pense.
Eh bien, en fait, comment expliquer ça
Avec des mots simples. Avec des mots simples.
Oui, je vais essayer de faire ça avec des mots simples. Dialyser, en fait, lui, il se rendait dans un centre de dialyse.
Oui.
Et, il était branché à une machine qui s'appelle le dialyseur. Et en gros, pour faire simple, on lui nettoyait le sang. On lui enlevait toutes les saletés qu'il avait dans le sang. Et on lui réinjectait de l'autre côté. Voilà, on lui nettoyait, quoi, en fait.
D'où, sans doute, la fatigue provoquée par ces dialyses. En tout cas, une volonté de rester au calme. Ça a été naturel pour vous de lui proposer de donner l'un de vos reins, parce que c'est une sacrée décision. Enfin, bien évidemment, une décision d'amour, mais qui entraîne peut-être certaines complications chez vous.
Alors c'était naturel, oui, parce que déjà ça fait 3 ans qu'on est en couple, on se connaissait déjà depuis pas mal d'années, et donc du coup j'étais au courant de pas mal de choses par rapport à sa santé, et
oui.
C'est vrai que quand je me suis rendu compte que ça nous bouffait notre vie de couple, je me suis dit oui, je dois le faire en fait, si c'est possible, hein, bien sûr, parce que c'est pas moi qui décide, si c'est possible, je le fais. Et du coup, ça a été vraiment naturel pour moi, en fait, oui, de le faire pour lui, simplement, pour lui rendre la vie beaucoup mieux. Et puis au final, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout quand je vois comme il est, quoi.
Et puis comme vous êtes aussi, parce que ça se passe très bien, hein, j'ai cru comprendre, en tout cas,
vous
ne vivez pas de complications. Quelles ont été les étapes à suivre ensuite pour ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien ? Vous prenez la décision ? Vous prenez la décision,
oui.
Et puis ensuite, comment ça se passe ? Vous êtes opérés en même temps, tous les deux ou
Oui. Alors déjà, moi, j'ai suivi pas mal d'examens. Hein. Je les ai même plus comptés à la fin.
Oui.
Après, donc oui, on est opéré le même jour. Donc, on a été opéré le 27 septembre 2017. Moi, je suis passée avant lui, parce que ça a duré un petit peu plus longtemps. Alors, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3 heures, 4 heures, quelque chose comme ça. Et lui a été opéré juste après, en fait, parce qu'il faut que, en gros, le rein ne reste pas trop longtemps. J'ai plus le mot exact, mais à l'air, on va dire. Donc, dès que le rein a été retiré de mon corps, ils étaient en place pour lui mettre à lui directement. Donc, ça s'est fait vraiment dans la foulée, quoi. Et après en salle de réveil, on s'est réveillé quasiment en même temps. J'ai même pu passer devant son box où il pétait la forme. Je vous avoue, je ne sais pas comment il a fait, mais il était en pleine forme.
Ouais.
Et après, il y a eu une hospitalisation. Moi, je suis restée à peu près une semaine. Lui est resté beaucoup plus longtemps parce que il y a eu des complications justement. Et il est rentré à peu près 2 mois et demi ou 3 mois après la greffe.
Alors cette greffe d'organes, elle a pas de complications pour vous, pas de complications pour lui non plus aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ?
Aujourd'hui, oui, je touche tout le bois que j'ai autour de moi.
Écoutez,
oui, ça va beaucoup, beaucoup mieux.
Moi, c'est un réflexe que j'ai aussi, dès que je peux toucher le bois. Et puis, si je ne peux pas, Obline et moi, on sait qu'on a un accord, on se touche la tête mutuellement.
Oui, voilà. Exactement.
Mais alors, on parle de ce don d'organes qui est encore très tabou. Hein. Cassandra, parce que je vous ai appelé Cassandre tout à l'heure. Justement, vous parlez de votre entourage, de la nécessité aujourd'hui de devoir parler du don d'organes, parce que vous montrez le chemin d'aider son prochain. Et pourtant, vous dites que dans votre entourage, vous vous heurtez encore à de l'incompréhension, en tout cas trop souvent pour vous. Pourquoi ?
C'est pas vraiment de la compréhension, c'est surtout de la peur en fait. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, à dire « bon, je vais lui offrir mon rein, etc. », parce que pour moi, c'est pas lui donner, je lui offrais mon rein.
Oui, oui.
C'était surtout, c'est courageux. Moi, pour moi, ça ne me paraissait même pas courageux, si vous voulez. Ça me paraissait vraiment normal. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais moi, je n'oserais pas faire ça, quoi. J'aurais tellement peur. Après, je comprends très bien, parce que moi aussi, j'ai eu, par moments, pendant le protocole, j'ai eu des moments où j'ai eu très peur.
Oui.
Mais après, de l'incompréhension, non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on n'en parle pas assez du don d'organes et du coup, les gens ne sont pas assez informés sur le don entre vivants et c'est bien dommage d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que les gens ont vraiment peur, mais derrière, il y a un suivi avant, pendant et après. Mm-hmm. Donc,
Et c'est ce pourquoi le docteur Benoît Averland nous disait que l'agence de biomédecine n'arrête pas de communiquer sur ce don d'organes, mais visiblement pas encore assez, puisque beaucoup d'entre nous restent sceptiques en tout cas et même éprouvent de la peur face à ce don d'organes. Merci beaucoup Cassandra d'avoir partagé votre histoire cet après-midi et puis bien évidemment je vous souhaite belle vie à vous et à votre compagnon, parce que quel cadeau que d'offrir à son compagnon et à son prochain un organe. Dans quelques instants, nous serons avec Anne. Elle est double greffée rein-pancréas et maintenant depuis 22 ans.
Europe 1. Parce qu'il est possible de vivre normalement avec un seul de vos deux reins, vous avez été donneur, comme on vient de l'entendre avec Cassandra. On vous a greffé un organe, vous nous racontez votre histoire, vous nous appelez au 39 21 50 centimes la minute. Pourquoi le don d'organes est-il tabou encore aujourd'hui ? Vous échangez cet après-midi avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Anne. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'où nous appelez-vous Anne et quel âge avez-vous ?
J'appelle de Grand-Quevilly en Seine-Maritime, oui. Et j'ai 50 ans.
50
donc,
ans.
En fait, j'ai 22 ans de double greffe, donc oui. Rein-pancréas. Et il se trouve, je dis en passant, votre émission est vraiment extraordinaire parce que ça peut vraiment permettre effectivement d'ouvrir la discussion, que ce soit dans les familles ou entre amis, sur ce sujet qui malheureusement est tabou. Et donc, on a entendu des gens qui avaient perdu des gens proches.
Oui.
Et moi, c'est vrai que pouvoir témoigner de l'autre côté du cadeau de vie que j'ai eu la chance d'avoir, ça me permet de dire que c'est un cadeau de vie inestimable. Et je voudrais insister auprès des familles qui vivent un deuil et qui ont donné. En tant que receveur, et j'en croise d'autres, on est très attaché à penser aux donneurs, alors surtout pas lui ressembler, parce qu'effectivement les organes sont devenus les nôtres, mais c'est la base, pourquoi on est en vie encore, enfin pourquoi moi je suis en vie encore, c'est grâce à ce don de vie extraordinaire. Donc chaque année, si vous voulez, pas un anniversaire bien sûr, mais il y a une pensée extrêmement forte de ma part et de certains de mes proches, pour ce donneur et également dont je ne sais rien, qui est décédé.
Oui.
Et pour la famille, parce que je sais que moi, si je compte mes années de vie, il y a peut-être ou sûrement quelque part dans le monde, je ne sais pas, une famille qui tous les ans, bon maintenant ça fait 22 ans, mais la douleur ne part jamais vraiment, compte les années qui éloignent et l'absence de la personne.
Bien sûr.
Et voilà, et donc dans ma vie de tous les jours, j'essaie vraiment de... C'est une espèce de philosophie de vie, si vous voulez, où vraiment je profite du présent, de chaque instant. Et par rapport aux autres personnes, tous les gens que je rencontre, j'essaie vraiment d'être... pas un exemple, on ne peut pas être un exemple, mais de témoigner, voilà. Témoigner qu'on est plein de vie, qu'on aime la vie et qu'on est en vie. Et en fait, c'est le témoin de l'essence même de la vie.
J'allais justement vous demander quel était votre rapport à la vie aujourd'hui, ce que vous appeliez cadeau de vie, mais vous l'avez dit toute seule. Aujourd'hui, 22 ans vous séparent de cette double greffe, et puis 22 ans de vie surtout.
Surtout, oui. Parce que de toute façon, sans cette double greffe, j'étais extrêmement abîmée par la maladie. Donc, c'est clair, je ne serais pas là.
Anne, est-ce que vous vous sentez investie d'une mission particulière par rapport justement à ce cadeau de vie qui vous a été fait ?
Alors, une mission, je n'irai peut-être pas jusque-là quand même. Mais par contre, j'ai une telle reconnaissance Je veux être moi-même, je veux vivre ce dont j'ai envie, mais par contre, j'avoue que je sens que je me dois, si vous voulez, d'être, alors je dirais presque à la hauteur de ce don. C'est-à-dire que, par exemple, je suis comme tout le monde, je peux être découragée de pas prendre les comprimés un jour, ou je peux ne plus avoir envie d'aller voir ou aller à une consultation, ce don-là, je me dis, mon donneur, là, j'ai pas le droit, voilà. J'ai pas le droit, mais en même temps, si vous voulez, ça me pousse à regarder tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau, et surtout tout ce qui est positif. À la fin de chaque journée, qu'est-ce qui a été positif? Il y a forcément des choses positives. Et c'est ce qui m'a... C'était un long chemin, et je crois que ce chemin-là est loin d'être fini, mais je crois que... Ça nous amène en fait à nous approcher de l'essentiel de la vie, c'est-à-dire les petits. On cherche tout le temps le bonheur, le grand bonheur.
Considérer en tout cas la vie d'une autre manière, Anne, parce qu'on l'entend bien chez vous, c'est que cela a changé totalement votre rapport à la vie et juste le regard que vous portez sur elle qui se tend aujourd'hui vers le beau. Surtout, je me rappelle des paroles de Sandrine que nous avons eues dans la première partie de cette émission et qui rappelait que Logan avait sauvé à l'âge de 8 ans et bien 3 vies en donnant ses organes. Merci beaucoup Anne, merci aussi à Sandrine, à Claire et à Cassandra pour leur témoignage. Merci au docteur Benoît Averland pour ses éclairages. Rappelons-le, toute personne est présumée consentante pour donner ses organes, sauf si elle a signalé un refus au cours de sa vie. Nous l'avons vu, le don d'organes permet de sauver des vies. L'objectif de l'Agence de la biomédecine, faire chuter le taux de refus de 30% à 12% dans l'Hexagone. C'est en parlant, comme nous l'avons fait aujourd'hui, que certains tabous disparaîtront, que disparaîtront aussi la peur et certaines réserves. N'hésitez pas à vous tourner vers l'association de Sandrine Un but pour Logan, mais aussi vers la fondation Grève de vie pour nous renseigner et puis bien évidemment vers l'agence de biomédecine. Merci, vous pouvez continuer bien évidemment à discuter du don d'organes sur les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, comme chaque jour, vous n'hésitez pas à commenter, à réagir et puis sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons de philosophie et attention, de philosophie avec nos enfants. Une pratique qui se développe de plus en plus. Alors, quel bienfait à la philosophie sur eux? Si vous avez inscrit votre enfant à des cours de philosophie, si vous y assistez avec lui, si vous animez des ateliers de philosophie pour les enfants, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là avec Ombline pour vous écouter.